Les bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Villa des femmes, de Sharif Majdalani, aux éditions du Seuil.
Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pille à Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer, pour défendre sa vie et le retour de ses marins, sans en pouvoir pourtant sauver un seul, quoi qu'il en eût. Par leur propre fureur, ils furent perdus en effet, ces enfants qui touchèrent au troupeau du dieu d'en haut, le soleil qui leur prit le bonheur du retour. À nous aussi, fille de Zeus, compte un peu ses exploits. Tous les autres, tous ceux du moins qui avaient fui la mort, se retrouvaient chez eux, loin de la guerre et de la mer. Lui seul encore, sans retour et sans femme, une royale nymphe, Calypso, le retenait, dans son antre profond, brûlant d'en faire son époux. Et lorsque, dans le cercle des années, vint le moment où les dieux avaient décidé qu'il rentrerait chez lui, en Ithaque, il trouva de nouvelles épreuves, jusque parmi les siens, et son sort touchait tous les dieux. Il y a beaucoup d'incipits magnifiques, mais disons que celui-là est particulier parce que c'est l'incipit d'un livre étonnant et en même temps d'un livre qui porte en lui tellement de livres à venir. Et en tout cas pour moi, c'est le livre dans lequel je m'identifie et dans lequel j'ai puisé, sans m'en rendre compte souvent, les thèmes de mes propres livres. J'ai l'impression de ne pas arrêter d'écrire à partir et dans l'Odyssée. Je pense que c'est plus l'élan de la première phrase, cette impulsion qu'elle donne à l'ensemble du livre qui compte, même si après on change de petites choses pour que l'élan soit encore plus, disons, plus dynamique. Mais c'est la première phrase est toujours là, oui. Ça. Ce qui est toujours très agréable, c'est de se souvenir du moment où on a écrit la première phrase, enfin en tout cas la première page. Cette espèce de jaillissement de quelque chose dont on se dit, ça y est, maintenant le texte est prêt, puisque la première page c'est celle-là. Villa des femmes a commencé à être écrit pendant l'écriture du précédent. Mais évidemment, il y a un moment où j'ai entièrement repris le texte et j'en ai fait une chose autonome. Et en tout cas, c'est très particulier. Et en même temps, c'est pas particulier parce que c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est un livre que j'ai écrit, que j'ai commencé à écrire quand j'écrivais le précédent. En ce sens que dans le précédent, il y avait des moments qui ne cadraient pas avec ce que j'étais en train de faire. Et donc, une sorte de dérive du texte que j'avais décidé de conserver pour en faire un livre entier. Mais en fait, je l'ai écrite à mon bureau, mais je l'ai pensée ailleurs. Oui, je l'ai pensée ailleurs. Et donc, en regardant un carnet dans lequel je prends des notes, surtout pour faire les plans, j'ai retrouvé le moment où j'ai eu peur que cette première phrase ne m'échappe. Et donc, j'en avais griffonné le début. Une fois de plus, cette espèce d'impulsion première, sachant qu'après, le reste me viendrait, je m'en souviendrai. Parce qu'il y a des phrases qui viennent, souvent, et elles sont tellement belles qu'on a envie d'enregistrer. Le rêve, c'est d'avoir une sorte d'enregistreur dans la tête, comme ça, qui enregistrerait les premières phrases, ou les phrases, certaines phrases qui viennent, dont le rythme, la prosodie, sont ce qu'on a envie de voir se concrétiser. Et donc, comme c'est pas possible, donc moi, je les écris. J'écris les quelques premières lignes, quelques premiers mots, sachant qu'après, le reste viendra de lui-même sur la page. Et c'est ce qui est arrivé. Et j'ai encore les quelques trois premiers mots ou quatre premiers mots. Ouais.
On écoute votre lecture.
Je me suis tenu là, tout le temps nécessaire, gardien de la grandeur des Hayek, témoin involontaire de leur déchirement et de leur ruine, assis en haut du perron de la villa, dans le carré de soleil, en face de l'allée qui menait au portail. Aussi loin que je remonte, je vois ce portail ouvert. C'est par là que sont arrivées les belles choses et aussi les calamités. C'est par là qu'entra le funeste émigré des années 30, par là que partit le fils cadet, et par là aussi qu'il réapparut un jour. C'est par ce portail que pendant des années, j'ai vu passer sur la route les belles automobiles et les autocars bariolés, les marchands de quatre saisons, les quincaillers ambulants et les vendeurs de tissus qui portaient les rouleaux de taffetas et de coton, comme des toges sur leurs épaules. À chacune de leurs apparitions, les bonnes jaillissaient derrière moi de la maison et couraient en riant vers la rue, s'attroupant autour des colporteurs qui, tels des princes entourés d'une cour improvisée ou des magiciens emmenés par des enfants enthousiastes, pénétraient ensuite sans se gêner dans la propriété. Ils étalaient à mes pieds les étoffes bon marché et les acryliques colorés, leurs trouvailles des halles aux fruits et leurs batteries de passoires à spaghettis ou de cruches en plastique, et c'était alors devant la villa un véritable souk qui s'improvisait. Mais Jamil apparaissait bientôt sur le pas de la porte. Non sans avoir jeté un coup d'œil intéressé à tout ce qui se trouvait sous ses yeux, déballages de draps et assortiments de verres et de tasses, elle prenait une attitude indignée, s'essuyait les mains à son tablier et rappelait son monde à l'ordre, avec humeur, en s'en prenant aux marchands en savates qu'elle chassait de sa voix puissante. Devant sa colère attendue, les bonnes se redressaient et battaient en retraite, tandis que les marchands remballaient à la va-vite et que Jamil me lançait un regard fulminant, me reprochant de laisser ainsi le tout venant pénétrer dans la propriété. Elle était intraitable, sauf à l'égard du marchand de poissons, qu'elle ne pouvait empêcher d'entrer, avec son vélo, ses bottes en caoutchouc et son air d'empereur romain, les yeux d'un bleu semblable à celui de la mer où il allait pêcher, et où il prétendait qu'un vieux cuirassé était planté droit au fond de l'eau, dans la vase, sa poupe et ses énormes hélices pointant vers la surface. Tous les vendredis, il venait proposer des loups, des bars ou des poissons à tête de chat à Skandar Hayek, mon patron, le maître du domaine. Quand elle le voyait approcher, Jamil marmonnait qu'il allait encore falloir nettoyer au pétrole le sol où il s'installerait pour écailler et vider ses poissons. Il le faisait pourtant sur de vieux journaux, et une fois, sur l'un d'entre eux, au-dessus duquel je me penchais discrètement, parce que le poissonnier travaillait à mes pieds, je lus en gros titre que l'Allemagne était entendue avec la France et l'Angleterre sur la Tchécoslovaquie à Munich. « Tu les trouves où, tes journaux ?» lui demandai-je en éclatant de rire. « À la Bibliothèque nationale ou chez un antiquaire ?» Et lui, avec ses yeux bleus, où passaient des cuirassés fantômes, les doigts gantés enfoncés dans le ventre d'un loup pour en sortir tout ce qu'il y avait, eut un air sombre, regarda les caractères sur le papier, et je compris qu'il ne savait pas lire. Cela dit, ces journaux ne servaient à rien, les boyaux des poissons finissaient à même le sol, sur les arabesques du carrelage que Jamil devait faire nettoyer avant de se mettre à quatre pattes pour renifler et s'assurer que cela ne puait plus. Mais elle avait beau rouspéter, elle n'y pouvait rien. Le patron aimait le poisson, et il appréciait ce poissonnier-là. Il avait confiance dans ses yeux bleus, dans sa tête d'empereur romain et dans ses histoires de cuirassés dressés comme un i au fond de la mer. Lorsqu'il lui avait passé une commande, la semaine suivante, il l'attendait, descendait lui-même devant le perron pour vérifier la qualité des rougets ou des saules, et un jour, en plaisantant, il voulut savoir comment il ferait avec son vélo s'il lui demandait un espadon ou un requin. Le poissonnier disparut 3 semaines, puis revint un matin dans une très vieille simka sur le toit de laquelle il avait attaché sa barque de pêcheur, dissimulée sous une grosse bâche. Il se gara, mit pied à terre, et on envoya le fils du jardinier quérir le patron à l'usine, à l'autre bout de la propriété. Lorsque Skandar arriva, s'exclamant avec beaucoup d'affabilité, « Alors, Yaburames, tu as acheté une voiture ?» Le travailleur de la mer indiqua le toit de la simka et la barque qu'il débâcha brusquement, comme un magicien. Et on s'aperçut que, en fait de barque, ce qu'il transportait était un gros requin au regard tombant, aux yeux exorbités, au rictus monstrueux. Les bonnes et les femmes de la maison se mirent à hurler d'horreur et de surprise, tandis que Abou Lamez déclarait « Vos souhaits sont des ordres, Skanderbeek ». Revenu de sa surprise, ce dernier déclara en riant qu'on allait se régaler. Tout le monde cria au scandale à cette idée, mais Skandar insista. Le poissonnier et son fils, aidés d'un ouvrier de l'usine qui avait été pêcheur, débitèrent la bête sous les yeux de Marie, ma patronne, debout, horrifiée, en haut du perron, et sous le regard de l'infernal Mado, dont on distinguait la silhouette derrière sa fenêtre à l'étage. Tout le peuple des bonnes, des jardiniers et des ouvriers accourut pour assister au dépeçage du requin, dont le sang, les tripes, les crocs et le mufle terrifiant furent négligemment jetés au milieu des plates-bandes de géranium et de gardénia. Jamilé, en maugréant, dut ensuite faire de la place dans ses congélateurs. On avait l'impression que c'était les restes des femmes de barbe bleue qu'elle était sommée de cacher, et moi, pour me mettre en valeur, je prétendis que je savais cuisiner ça, ce qui n'était pas vrai. Mais j'avais entendu un jour mon père rapporter une recette d'espadon qu'un docker palestinien lui avait décrite et que lui-même tenait d'un marin marseillais. Je la reproduisis approximativement, utilisant sans vergogne les fourneaux de Jamilé. C'était une recette à l'alcool, un alcool d'anis, de réglisse et de fenouil qu'ils appellent pastis là-bas, à Marseille, et que je remplaçais par de l'arrac, qui est un cousin du pastis, mais sans fenouil ni réglisse. Quand ce fut prêt, Skandar réclama que ses enfants, sa femme, sa sœur, Mado en goûtent. Il en envoya même au contremaître de l'usine. Tout le monde considéra le steak de poisson mariné à l'arrac comme s'il s'agissait d'un monstre marin menaçant de bondir hors des assiettes. Skandar le premier se mit à manger, tout le monde l'imita, et c'est depuis que l'on me surnomme requin à l'arrac, ce qui, avec le temps, persuada tout un chacun que dans ma jeunesse j'étais puissant, redoutable et silencieux comme un requin, ce qui est possible, et que j'étais porté sur l'alcool, ce qui, en revanche, est absolument faux. Je me revois assis là durant toutes ces années. Je revois danser les ombres et la lumière sur les arabesques du perron où j'attendais le patron. Je savais ses heures et son programme. J'aimais la propriété, l'usine, les jardins, et même cet insupportable Jamilé qui jamais n'a voulu de moi, autrement que comme collègue, mais dont le corps de louve, les cheveux de jais et les seins durs et fermes me faisaient rêver. J'aimais le domaine, malgré Skanderbeek et ses lubies, malgré sa sœur Mado et son pénible caractère. Cette maison et ses alentours étaient mon univers, j'y avais vécu mon enfance, j'y venais quand mon père était le chauffeur du vieux Noula, le père de Skandar, au temps des Delage et des Bugatti. Je jouais dans les vergers, on m'envoyait parfois faire une course à l'usine, dans l'air saturé d'odeurs de linge bouilli, au milieu des encolleuses et des décatisseuses qui firent la réputation du textile des Hayek. En revanche, je n'avais pas le droit d'entrer dans la villa, cette villa dont je suis plus tard devenu le gardien, lorsque, à la mort de mon père, j'ai pris sa place comme chauffeur de Skandar, surveillant toute la journée l'allée et le portail ouvert, espérant que Jamilé me rejoindrait ou qu'apparaîtrait la belle Karine, la fille des patrons, sur son cheval. J'entendais le pas d'une monture et je la voyais arriver entre mes paupières mi-closes. Elle était pieds nus, la chemise à moitié ouverte sur sa poitrine et chevauchait à cru. Cela a longtemps alimenté mes fantasmes et j'eus même des envies de meurtre à l'égard des petits Palestiniens du camp voisin qui venaient livrer les commandes passées chez l'épicier ou le boucher et dont l'un, sortant un matin par les cuisines et faisant le tour de la maison, se retrouva face à Karine sur son cheval. Elle lui fit un petit signe, puis, le voyant stupéfait, lui proposa de monter derrière elle, ce qu'il accepta, évidemment, et elle le mena ainsi jusqu'au portail. On peut imaginer ce qu'il raconta ensuite à ses copains, qu'il l'avait tenu par les hanches, qu'il l'avait renversé dans un fourré, qu'elle l'avait laissé lui ouvrir sa chemise et avait écarté les jambes pour le recevoir. J'eus fréquemment envie d'en parler à son père quand je le conduisais à bord de l'une de ces grandes américaines et que nous étions seuls, lui et moi, d'attirer son attention sur l'indécence de sa fille. Mais je ne lui dis jamais rien, parce que je savais qu'il me répondrait avec mauvaise humeur « En quoi ça te regarde, Yann Oula ?» Mon père avait eu l'idée saugrenue de m'appeler Oula, comme son propre patron, le père du mien. Ou « Qui t'a demandé de faire le chaperon, requin à l'arrac ?» Alors je ne disais rien. Je savais qu'il avait une prédilection pour Karine. Il ne supportait pas que l'on parle d'elle, que l'on fasse une remarque à son propos. Il l'emmenait souvent avec lui en ville quand elle était adolescente. Je l'ai laissé dans les marchés où il achetait ses cigares, ses cravates, parfois des tapis ou des antiquités. Elle l'accompagnait volontiers et, comme pour l'en remercier, il lui passait ses caprices. Elle revenait avec des robes, des sacs et des chapeaux, si bien que Marie disait à son époux « Tu es en train de la gâter, elle va devenir insupportable en grandissant. » Mais il haussait les épaules. Ces deux-là, mes patrons, communiquaient peu. Ils se parlaient même le moins possible et cela a duré 40 ans. Le matin, ils prenaient leur petit déjeuner ensemble puis s'installaient dans le salon afin de recevoir les contremaîtres et le personnel. Marie écoutait les ordres que son époux donnait et s'assurait ensuite qu'ils étaient respectés. Ils échangeaient quelques considérations sur des achats, des travaux à faire, mais sans émotion ni affect. Et Skandar modifiait parfois ses ordres en fonction des remarques de sa femme, mais sans un signe de connivence avec elle, simplement en s'adressant à nouveau au contremaître ou au jardinier, ou à moi. Ils vécurent de cette façon, gérant leur vie de famille comme si c'était une affaire qu'il fallait mener à bien, lui-même confiant dans la gestion de ses directives par sa femme, et cette dernière entièrement libre de son temps et de l'éducation de ses enfants, sortant, allant en visite chez ses amis ou à la plage, des occupations dont elle lui faisait un compte-rendu le soir quand il rentrait, qu'il écoutait distraitement, posant des questions de convenance avant que tous deux ne ressortent, car leur vie en société, très intense, était elle aussi scrupuleusement réglée. Il lui annonçait à l'avance qu'ils étaient tel soir conviés à dîner, mais la laissait décider des invitations à rendre en déclarant laconiquement « Fais ce qui convient ». Dès le moment où je suis arrivé à leur service, je les ai trouvés comme cela. C'était dans la nature des choses, et mon père affirme qu'il en fut ainsi dès le début, dès leur mariage, parce que Marie ne voulait pas de Skandar. Elle aimait un autre homme qu'on l'empêcha d'épouser. On la fit venir à ses noces presque de force, après qu'on l'eût arrêtée sur le port, d'où elle s'apprêtait à partir rejoindre son amant en Égypte. Skandar, de son côté, n'avait rien contre ce mariage, d'autant que Marie était belle, les cheveux châtains, le regard ironique et rêveur, distraite, toujours d'une élégance inouïe, dans des robes de couleur et parées de bijoux qui valaient 100 fois mon salaire annuel, mais sur lesquels Skandar ne lui faisait pas un seul compliment, sauf peut-être dans leur intimité, quand ils étaient seuls, ou au lit, j'en sais rien, car ils eurent quand même 3 enfants malgré cet état de leur relation, 3 enfants que j'ai vus naître et grandir, et qui furent comme les miens, dont j'ai connu les secrets et couvert parfois les bêtises. Oula, l'aîné, qui avait le même prénom que moi et qui était porté sur les distractions et les filles, Harris, le deuxième, qui restait à lire dans le jardin ou à jouer à des jeux de guerre et de conquête avec ses camarades, enfermé dans sa chambre pendant des heures, et enfin Karine, qui tous les matins passait sur son cheval devant le perron, où j'étais assis, en feignant de ne pas me voir, parce qu'elle savait parfaitement que je blâmais sa manière de se comporter. Pu associer à ça un texte musical baroque, mais en même temps il y a un texte dans lequel il y a une sorte de tension et qui générera des conflits. J'associe ça à un texte avec un continuum, mais également plein de tension lyrique, je dirais. Tension lyrique, donc un morceau de John Coltrane. Et il y en a un que j'aime particulièrement et que le hasard a voulu que c'est un morceau que j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et que je ne retrouvais plus. J'avais perdu le disque en vinyle, parce qu'évidemment, j'avais un disque en vinyle, mais par ailleurs, je ne savais plus comment faire pour retrouver ce morceau. Et je l'ai retrouvé à l'époque où j'avais commencé à écrire Villa des Femmes, par hasard. Et pour moi, donc, il s'associe assez bien à ce livre, peut-être plus de manière subjective, mais aussi parce qu'il y a cette chose que j'estime être, enfin, que j'espère avoir rendu ainsi dans mon écriture, une sorte de tension lyrique. Et donc, c'est un morceau qui s'appelle Your Lady, de John Coltrane.
Charif Majdalani, merci beaucoup.
Merci.
C'était Charif Majdalani qui présentait son roman Villa des femmes, à paraître aux éditions du Seuil. Les Bonnes Feuilles. Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Soma Nina, Stéphane Desmonts.